L'usine que vous allez suivre est une rediffusion.
On a vu une tendance des mégacités en Afrique dans les dernières années qui ont attiré beaucoup de monde, mais en même temps aussi qui ont posé beaucoup de problèmes. Si vous voyez le taux de personnes vivant dans les quartiers précaires en Afrique, en milieu urbain, c'est 65%. Maintenant qu'on est arrivé à une saturation de cette grande ville, effectivement, il faut explorer d'autres opportunités. Et c'est de voir comment on peut trouver des palliatifs avec ces villes qui émergent avec des populations entre 1 million donc à 100 000 habitants et qui ont toute une potentialité pour donner tout ce que les gens cherchent dans les grandes villes en termes d'accès à l'emploi, en termes de protection, en termes d'accès à l'éducation, mais surtout et maintenant en termes de protection contre les changements climatiques. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, quand on parle de villes intermédiaires, pour moi je les vois comme étant les opportunités que nous sommes créées en Afrique pour trouver un équilibre entre les grandes villes, les petites villes et les villes moyennes, dans le sens de trouver des conditions de vie meilleures pour les populations.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide. Pour les voisins et les voisines.
Aujourd'hui, reportage à Kisumu, troisième ville du Kenya, après Nairobi et Mombasa. Des maisons blanches, des arbres, beaucoup. On est loin de l'enfer des métropoles. Avec plus de 500 000 habitants, presque 1 million, avec sa banlieue et ses bidonvilles, cette ville, posée sur la rive orientale du lac Victoria, concentre en fait tous les enjeux des villes moyennes en Afrique aujourd'hui. Sa population double tous les 15 ans. J'ai bien dit, sa population double tous les 15 ans. Ni capitale, ni village, ces villes intermédiaires vont attirer les deux tiers de la population du continent africain d'ici 2040. Alors comment se prépare-t-elle à l'explosion démographique? C'est un reportage enquête d'Inès Edel Garcia au Kenya. Bonjour Inès.
Bonjour Emmanuel.
Vous étiez à Kisumu pour couvrir le 9e sommet Africité en mai dernier et la ville de Kisumu n'a pas été choisie par hasard donc.
Oui, c'est l'événement panafricain qu'organise tous les 3 ans maintenant, depuis 1998, l'organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, CGLU. Et cette année, le sommet s'est intéressé au rôle des villes intermédiaires dans la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'ONU. L'objectif étant de sensibiliser les gouvernements, les bailleurs de fonds et les entreprises au potentiel de ces villes intermédiaires dans un contexte d'accélération de la croissance urbaine. D'ici à 2030, l'Afrique verra 250 millions de nouveaux urbains et d'ici 2050, 7 personnes sur 10 vivront en ville. Alors pour réduire la pression sur ces villes capitales, il est donc aujourd'hui question d'orienter le développement urbain vers les villes intermédiaires.
Autrefois, Inès, on parlait de villes moyennes, de villes secondaires. Qu'est-ce qu'on entend exactement par villes intermédiaires? Est-ce que c'est la même chose?
Oui, alors en gros, ce sont des villes entre 100 000 et 1 million d'habitants. Donc en fait, la définition est volontairement très large parce que la classification varie d'un pays à l'autre. Sans compter qu'au Nigeria, par exemple, le géant de l'Afrique, on peut trouver des villes intermédiaires de 2 voire 3 millions d'habitants.
Oui. Ouais. Comment la ville de Kisumu se prépare à l'augmentation de sa population?
Eh bien, l'objectif, c'est de planifier, de densifier la ville, ne pas trop l'étaler sur des kilomètres pour pas augmenter les temps de transport, et surtout tirer parti du lac Victoria, le 2e plus grand lac d'eau douce au monde. C'est clairement l'atout principal de la ville. Et pourtant, jusque-là, la ville s'est construite en tournant le dos au lac. Et de mon côté, j'ai réussi à obtenir l'autorisation de m'approcher du lac. Mais il faut savoir que depuis le centre-ville de Kisumu, l'accès au lac est complètement interdit au public, protégé par des militaires à cause des industries alentour. Et donc, le lac est très pollué par des déchets plastiques, par des substances chimiques en tout genre. Il est aussi envahi par la jacinthe d'eau, une plante qui bloque à la fois la progression des bateaux, qui gêne la pêche, qui provoque la disparition de la faune dans certaines zones. Et comme beaucoup de lacs en Afrique, il est menacé par la bilharziose, une maladie parasitaire qu'on connaît bien. Aujourd'hui, depuis les berges du lac, on trouve un peu de végétation comme ça, spontanée, quelques bateaux et le récent chantier naval avec ses ouvriers. Mais derrière ce décor, un gros projet d'aménagement est en cours de préparation. Explication tout de suite avec Edouard Douko, président du Kisumu Lakefront Development Corporation. C'est la société en charge de ce projet.
To start facing the lake, Pour ouvrir la ville sur le lac, il faut d'abord que la population puisse se réapproprier les berges. C'est pour cela que nous voulons aménager une promenade où les gens pourront interagir avec le lac en fin de journée, le matin. Ils pourront marcher, faire un jogging ou tout simplement s'asseoir pour admirer les vagues du lac. L'idée, c'est de créer une grande promenade qui, je l'espère, ne se limitera pas à l'endroit où nous nous trouvons actuellement, mais qui s'étendra sur environ 40 km autour du lac. Notre ambition avec ces 40 km, c'est qu'un jour, Kisumu puisse accueillir un marathon. Mais autour de ces 40 km, nous prévoyons aussi d'implanter un certain nombre d'activités, à commencer par un golf d'envergure internationale et une marina avec des bateaux et des activités nautiques. Sur une autre partie, qui ne sera pas non plus très loin de l'aéroport, nous allons essayer d'implanter un centre des congrès. Et enfin, nous aurons une zone d'habitat mixte avec à la fois des hôtels et des résidences haut de gamme. Tout cela sera donc tourné vers le lac, ce qui signifie que les gens pourront interagir quotidiennement avec, et ce, dès leur réveil.
À qui s'adresse ce projet et qui va en bénéficier ?
Ce projet va profiter à beaucoup de monde. C'est d'ailleurs pour cela que nous sommes en train de mobiliser toute la population. Sur la promenade, nous envisageons d'avoir des espaces où de jeunes gens et des femmes pourront ouvrir des kiosques, par exemple. Cela permettra aux gens qui se baladent d'acheter un soda ou de prendre un café. Ce ne seront pas de gros commerces, mais plutôt de petites boutiques tenues par des particuliers. Mais l'un des plus gros changements en termes d'emploi va venir du chantier naval que nous avons ici le long du lac, car il va permettre de former et d'employer des jeunes dans de nombreux domaines. Nous voulons vraiment contribuer à réduire la pauvreté, sans quoi tout ceci n'aurait aucun sens. C'est pour cela que nous voulons avant tout libérer le potentiel économique autour du lac le plus vite possible.
S'agissant du logement, qu'est-ce que vous prévoyez exactement ? Parce que Kisumu est promise à une croissance urbaine importante, de nouveaux habitants vont arriver dans les prochaines années. Qu'est-ce que vous allez proposer pour ces nouveaux habitants qui n'auront pas forcément des revenus très très hauts ?
Le projet comprend aussi du logement social, mais un peu plus dans les terres. Pas à proximité directe du lac, mais à 5 km d'ici pour que les gens puissent quand même venir y travailler. Nous allons donc devoir investir massivement dans du logement abordable. En parallèle, nous allons aussi encourager les gens à déménager vers les exploitations agricoles. L'idée, plutôt que de rester en ville près du lac, c'est qu'ils lancent des projets d'agriculture, y compris sur des petites parcelles. Donc, c'est vraiment un projet d'ensemble à partir des berges du lac qui seront le moteur économique. Ensuite, à mesure qu'on s'éloignera, on aura à 5 km de là les programmes de logement social et plus loin, à une vingtaine ou trentaine de kilomètres, on aura des fermes de petite taille qui permettront d'approvisionner les abords du lac.
Je m'appelle Dominique Autier-Omolo, je suis consultant pour le comté de Kisumu durant cette 9e édition du sommet Africité à Kisumu. La plupart des logements qu'on trouve dans le centre de Kisumu ont été construits pendant la période coloniale, c'est-à-dire jusqu'en 1955-1956. À cette époque, ils étaient destinés à la classe aisée africaine. Depuis, la population a été multipliée par 6. Elle a tellement augmenté que la ville doit trouver de nouvelles solutions pour loger cette population grandissante. C'est pour cela que le gouvernement du comté de Kisumu a décidé de démolir certains de ses anciens lotissements pour les remplacer par des bâtiments très modernes et de grande hauteur, capables d'accueillir les nouveaux habitants et de résorber l'habitat informel. Ces nouveaux programmes ciblent les classes populaires et les classes moyennes les plus basses, et le gouvernement local va financer ces logements pour pouvoir attirer ce type de ménage.
Et là, je vois qu'il y a une maquette. Ça correspond à quel projet ?
Ici, ce sont les trois programmes qui doivent sortir de terre. Le premier est la résidence Anderson. Ce projet immobilier doit pouvoir accueillir 1379 familles, ainsi que des commerces et une crèche. Ensuite, le second projet correspond à la résidence Lumumba, dans laquelle 1680 unités sont prévues, ainsi qu'un centre commercial. Et enfin, on a la résidence Makasembo, qui sera, elle, en grande partie réservée aux personnel du comté et du gouvernement national basé à Kisumu.
Staff of the county assemblies and then the national governments who are working in Kisumu.
Vous avez augmenté la densité d'habitants sur ces parcelles. Historiquement, combien de personnes vivaient ici?
Pour Anderson, nous avons aujourd'hui environ 600 familles qui vivent dans ce lotissement. Comme je le disais, l'objectif est d'en avoir à terme 1379. Donc c'est une augmentation significative. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce sera aussi plus ordonné. Avant, les maisons étaient dispersées. On avait de petites unités familiales sur de grands terrains. Grâce à ce projet, nous aurons des édifices de plus grande hauteur, mais mieux organisés pour loger plus de personnes.
Et alors, donc juste à côté, on a la présentation du bus Rapid Transit, le BRT.
Yes, currently because of the problem of movement within.
Tout à fait. À cause de la multiplication des déplacements qu'on connaît actuellement dans la ville de Kisumu, on commence à avoir des embouteillages le matin quand les enfants doivent aller à l'école et les gens au travail. Et c'est la même chose le soir. Avant, nous avions un bus géré par le gouvernement national, mais la compagnie a fait faillite et les gens en ont beaucoup souffert. C'est pourquoi la ville a l'intention de créer 5 lignes de BRT.
Of the bus rapid transport system.
Tous ces projets seront prêts d'ici combien de temps à peu près ?
Il est prévu que ce soit opérationnel dans les 3 prochaines années, ou du moins qu'une grande partie le soit.
Most part of them will be already realized.
Alors Inès Edel Garcia, vous qui avez vu toutes les maquettes de cet énorme projet, est-ce que la ville de Kisumu peut relever le défi de la croissance démographique et tourner sa vie vers le lac ?
Alors c'est vrai que ce qui est annoncé, c'est un projet de démolition-reconstruction qui va plus que doubler le nombre de logements en 3 ans. Ça semble très ambitieux entre nous. Malgré tout, pour la Banque africaine de développement, ces villes intermédiaires ont un rôle à jouer pour justement créer de la richesse et surtout soulager les grandes capitales en matière de flux migratoires. D'après les données d'Africapolis, on compte aujourd'hui en Afrique environ 630 villes intermédiaires. Or, ces villes intermédiaires sont longtemps restées dans l'angle mort des politiques publiques. Oumar Sylla nous explique pourquoi. Il est directeur du bureau régional Afrique de ONU Habitat basé à Nairobi.
Il y a un élément historique qu'il faut prendre en considération, parce que si vous voyez l'architecture économique industrielle de l'Afrique, les grandes villes attiraient les activités industrielles. Il n'y avait rien, il n'y avait que le milieu rural. Et l'activité principale, c'était l'activité agricole. Donc, il fait qu'à un moment donné même, les gens fuyaient les milieux ruraux et ces petites villes vers les grandes villes à la recherche de l'emploi. En plus, avec les années de sécheresse, l'ajustement culturel, toutes les crises économiques et politiques qu'on a connues. Mais maintenant que la population augmente, c'est une dynamique naturelle qui se produit parce que les gens aussi ne se sentent plus à l'aise dans les grandes villes où ils font la mendicité ou bien ils se font face à la question d'accès à l'abri. Donc du coup, eux-mêmes, ils se sentent obligés de pouvoir trouver des alternatives. Maintenant, toute la question, c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut pour que ces villes secondaires remplissent ces attentes et l'espoir de ces populations. Et pour nous, ONU Habitat, on est très clair. Première chose, il faut passer à une bonne planification de ces villes avant qu'ils ne tombent dans les mêmes travers que ces grandes villes ont eu à faire face dans la prévention. Deuxième chose, il faut aussi une forme de gouvernance innovante parce que aussi, ce qu'on a vu dans les grandes villes avec la politisation de l'espace public, du coup, on a des problèmes à entendre la voix du citoyen. Donc, en commençant de nouveau avec les villes secondaires, secondaire, peut-être on peut trouver un espace démocratique et qui donne la parole aux citoyens en termes de participation à la chose publique, mais aussi en termes de prise de décision.
Derrière la question de la planification, il y a évidemment la question du foncier. Et comment réguler le développement urbain? Comment réguler les prix de sortie des logements, par exemple, quand on ne maîtrise pas la propriété foncière, ce qui est le cas de beaucoup de collectivités ici en Afrique?
Vous touchez ma passion parce que je suis expert foncier et ça fait 25 ans que je travaille dans le sujet dans différentes raisons. Le premier constat, c'est que l'Afrique est en retard dans le règlement de la problématique foncière. Parce que jusqu'ici, on est en train de se battre avec des problématiques qui sont là depuis les indépendances. Par exemple, les rapports entre le régime coutumier et le régime étatique, il y a toujours des conflits. Je pense que vous avez vu l'emprise des chefs coutumiers quand il s'agit de discussion des politiques foncières. Ça, c'est un élément. Deuxième élément qui symbolise le retard, notre administration foncière n'est pas à la hauteur. Il manque de capacité énorme. Aujourd'hui, combien de pays ont le registre foncier qui est, comme on dit, up-to-date, comme disent les Anglais? Il y en a peu. Dans certains pays, il n'y a même pas de registre foncier. On ne sait même pas à qui appartient la terre et comment il faut utiliser la terre. Le troisième paramètre, combien de pays en Afrique ont une politique foncière concertée et consultative? Parce que aussi, ça pose beaucoup de conflits. Conflits à plusieurs niveaux, intrafamilial, conflits entre États et populations. On a vu combien de populations qui sortent dans la rue pour manifester, contester, donc, et peut-être parler d'une emprise des terres par l'État. Donc ça, c'est un problème. Mais bon, d'un point de vue économique, aujourd'hui, l'Afrique pourrait dépasser là où nous sommes, économiquement parlant, si ce problème de foncier était résolu. Les investisseurs veulent de la sécurité foncière. Ils ne veulent pas sur une terre qui est en conflit ou bien qui est disputée entre les populations. Mais aussi l'impôt foncier. Pour que l'État puisse faire face aux besoins sociaux, c'est l'impôt foncier. On n'en a pas assez dans ces pays parce qu'on n'a pas un système d'information foncière, on n'a pas les capacités de l'administration foncière, on n'a pas un régime clair dans la gestion des terres. Donc, pour dire qu'effectivement, il y a un travail énorme à faire et que malheureusement, les gens ont peur de parler de la question foncière. Que ce soit les bailleurs de fonds, que ce soit les autorités étatiques, ils ont peur d'en parler et ils mettent en touche. Et ça, c'est un problème qu'on garde et ça fait 60 ans d'indépendance, ce problème n'est pas résolu, mais aussi longtemps qu'il y a la corruption et les malversations autour de la terre, comme ça arrive dans plusieurs pays, effectivement, le débat ne sera pas facile entre les différents protagonistes à la question foncière.
L'une de vos collègues disait tout à l'heure lors d'une conférence qu'il faudrait construire 4000 logements par heure pour absorber la croissance démographique attendue dans les villes africaines d'ici 2050. Comment produire un tel volume de logements en si peu de temps pour accueillir justement ces nouvelles populations et éviter que des quartiers informels ne se reproduisent en périphérie?
Au fait, ça c'est une équation mathématique. Donc effectivement, le secteur des logements a souffert en Afrique depuis le début des indépendances. Il y a des agences publiques qui ont été mises en place avec des milliards de francs CFA et jusqu'ici n'ont même pas délivré le nombre de logements qu'on attendait d'eux. Donc ce qui dit que cette population, cet excédent de population vient s'adosser à cette problématique politique et économique en termes de production de logements en masse. Donc ce qui dit qu'aujourd'hui, tout le travail de ONI Habitat, c'est de réfléchir sur un nouveau paradigme de produire ce logement social, sachant que les politiques publiques ont échoué. Et pour cela, effectivement, ce n'est pas facile et ce sera un long chantier. Mais pour l'instant, c'est comment promouvoir le secteur privé dans leur contribution à ce logement. Mais aussi avec d'autres bailleurs de fonds comme l'Union européenne, on est en train de développer ce qu'on appelle l'autoconstruction de logements où on donne les moyens, la technicité aux populations pour qu'ils construisent des logements donc, à moindre coût. L'autre élément aussi qui est important, c'est vraiment dans le crédit. Et c'est là où il y a un problème en Afrique en réalité. Donc le taux de crédit est très élevé et n'est pas conducif, si vous voulez bien, à une promotion du logement en masse. Si on doit payer des taux d'intérêt de 20 à 30%, ce qui veut dire que d'un point de vue politique, il y a des mesures à prendre dans la subvention, mais aussi dans la régulation bancaire pour permettre à ces populations d'avoir des taux d'intérêt à moins de 3%, 4% pour même les catégories intermédiaires. On ne parle même pas des catégories de bas parce qu'aujourd'hui, on connaît la réalité en Afrique. L'informalité, c'est plus de 70% du tissu économique. Mais aussi, il ne faut pas se leurrer. On ne peut pas faire face au déficit de logement sans créer des emplois. À la base, c'est le revenu. Donc, il ne faut pas qu'on se passe, qu'on est dans un état providence. L'État doit promouvoir des emplois, l'État doit aider les jeunes pour une bonne formation, il y aura une bonne insertion à partir desquelles ils vont faire une économie. When a good girl gone bad, what you gonna do? Run go meet her dad. You know what I do. Well, this is Southeast Hall, but the ranking what best, y'all. Watch this. Love confession. What she's is a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna take her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. Why I wanna take her. So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me never let you go. Girl, me never let you go. So tell me why you do me so. Tell me why you do me so. Girl, me never let you go. Tell me never let you go. Me spend all me money, spend all me cash. Call you me honey, but you threw me pon trash. And you think say me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if them hating on you, but me never send them go. In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Night socialite when I rubbish scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, I've never seen melanin so dark. You're a queen of the dance floor. Socialite when I rubbish scene, baby. Won't you put me in your diary? She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna date her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. Why I wanna date her. So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. Baby, me never let you go. Girl, me never let you go. So tell me why. I saw you in the magazine, or maybe on TV. Looking me up close when you're queen, you're a queen. And if you know me well, you know I don't kiss and tell. But I want you to myself, baby. In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor nights. I shall like on the legacy scene, baby. Won't you put me in your diary? In my life, yo, me never seen melanin so dark. You're the queen of the dance floor nights. I shall light on the legacy, baby. Won't you put me in your diary? She's a heartbreaker. Oh, yeah. She bend over backbreaker. Oh. Steaming hot water vapor. Oh, yeah, yeah, yeah. I wanna date her. She's a heartbreaker. Hey. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. Oh, yeah. I wanna date her. So tell me why you do me so.
De voisins et la planète se parle.
Reportage d'Inès Edel Garcia au Kenya, dans la ville de Kisumu, troisième ville du pays, lors du 9e sommet Africité consacré aux villes intermédiaires en Afrique.
Je suis dans le taxi de Kevin. Nous avons quitté le CBD, le centre-ville de Kisumu, et nous avons pris la direction de Dunga, un peu plus au sud, mais toujours au bord du lac Victoria. C'est d'ailleurs là-bas que se concentre essentiellement la pêche de tilapia. Et j'ai rendez-vous juste à côté de la Dunga Primary School avec Caroline Odera. Elle a fondé en 2016 Wise Hub, une école d'informatique réservée aux femmes et aux jeunes filles.
Hi, Caroline, you're Caroline, right?
Yes.
Nice to meet you.
Nice to meet you.
Bienvenue chez Wise Hub.
Thank you. So we have about 10 computers here.
Ici, nous avons environ 10 ordinateurs. En règle générale, on recrute des jeunes filles du quartier pour se former sur une période d'un à deux mois. Elles viennent apprendre comment taper sur un clavier d'ordinateur et comment utiliser une série de logiciels informatiques comme Word, Excel, Access, Publishing, PDF, tous les fondamentaux dont elles ont besoin avant d'aller plus loin dans leur apprentissage. En plus de cette formation en informatique, nous avons des formations spécialisées pour des femmes qui souhaitent devenir des entrepreneurs, des businesswomen. Donc si tu as une idée, on t'aide à la concrétiser dans un projet d'entreprise et à passer au niveau supérieur. En fait, on forme à tous les aspects de la création d'entreprise. On t'aide aussi à développer ton site web, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir une affaire sans qu'elle soit en ligne. Tout est intégré, business, informatique et leadership, de façon à former des dirigeantes capables de promouvoir la région.
Pourquoi s'adresser uniquement aux femmes et aux jeunes filles ?
Pourquoi les femmes et les filles ? Parce que si vous regardez actuellement la population, elle est en augmentation, en particulier dans la région du lac. Ici, les femmes et les filles sont majoritaires et dépendent des ressources naturelles autour du lac, le poisson étant souvent l'unique source de revenus. Or aujourd'hui, comme le Covid nous l'a appris, vous ne pouvez rien faire si vous ne pouvez pas vous servir d'un ordinateur, pas même obtenir un emploi. En plus, ici, de l'école jusqu'à l'université, la plupart des filles ne reçoivent pas de cours d'informatique. Et de toutes les façons, dans cette communauté, la plupart d'entre elles ne vont même pas à l'université. Donc nous les formons à ces outils pour trouver un travail, mais aussi pour qu'elles progressent au cours de leur carrière. Nous voulons voir plus de filles et de femmes chefs d'entreprise. Car si vous interrogez les membres de cette communauté, généralement, elles voient le leadership uniquement d'un point de vue politique. D'autant plus que le Kenya s'apprête à avoir des élections. Nous, nous sommes là pour leur enseigner le leadership économique. Parce que tu peux être aussi un leader dans les affaires ou en informatique. C'est pour toutes ces raisons que nous promouvons les femmes et les filles dans cet espace.
Alors vous, Caroline, vous avez grandi dans les quartiers informels. Comment vous en êtes arrivée là ?
Oui, j'ai grandi dans un quartier informel et mes parents étaient marchands de poissons. Ils m'ont donné envie de m'intéresser au monde de l'entreprise. Donc je me suis demandé comment je peux utiliser le commerce pour avoir un impact positif sur ma communauté. J'ai eu la chance d'étudier le management en lien avec l'informatique. Et à partir de là, je me suis dit comment je peux utiliser mes compétences professionnelles pour impacter la vie des femmes et des filles dans cette région.
Hi.
Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Masakine.
Quel âge tu as?
J'ai 21 ans.
Et qu'est-ce que tu veux faire plus tard?
I hope to gain skills. J'espère acquérir des compétences qui m'aideront à trouver un emploi. Employ myself or get employed. Yeah. Maybe a cashier. Pourquoi pas un travail de caissière? Quand j'aurai ces compétences, je pourrai effectivement devenir caissière dans un supermarché ou dans un centre commercial, n'importe où.
Reportage d'Inès Edel Garcia au Kenya, sur les villes que l'on appelle intermédiaires, en pleine croissance démographique en fait. Construire des logements, créer de l'emploi pour accueillir les nouveaux urbains, d'accord, mais dans ces conditions, comment éviter que la ville bétonnée finalement, Inès, n'aggrave encore les conséquences du changement climatique?
Mais tout à fait, c'est vrai que quand on regarde le projet urbain sur les bords du lac Victoria, dont on a parlé un peu plus tôt, on peut effectivement s'interroger sur sa viabilité, parce que le lac est déjà très pollué et que certains espaces verts sont de fait voués à disparaître. Donc clairement, il y a une injonction contradictoire entre l'urgence de bâtir massivement et l'urgence climatique.
Mais aussi, il faut y ajouter l'urgence conflit. Parce que on a vu tout, c'est ma directrice en anglais dans son intervention a parlé de 3 C. Climat, conflit et Covid-19. Donc, vous voyez qu'on peut dire que le monde est à la croisée des chemins avec tous ces problèmes que nous vivons. Donc, et ça demande une nouvelle approche de l'urbanisation. On ne peut plus faire des constructions comme avant. On n'interroge pas la qualité des matériaux de construction ou on ne regarde pas où on doit construire. Et c'est la raison pour laquelle nous prenons vraiment au Néhabitat une planification bien maîtrisée. Sinon, ce qu'on voit dans les zones d'inondation dans plusieurs pays, c'est juste un désordre dans l'occupation de l'espace parce que les gens vont aller dans des zones dangereuses. Alors que si on les indiquait dans les zones d'aménagement et autres, c'est moins un problème. Mais plus important encore, c'est vraiment de revenir à la case départ. Quand je vois les gens magnifier maintenant le reboisement et qu'ils appellent ça nature-based solution, ça me fait rire parce que c'est des choses que nous faisions quand nous étions petits. Maintenant, c'est de nouveaux concepts qui étaient là. Donc, il faut retrouver aussi le savoir local des populations et c'est très important d'un point de vue politique maintenant. Donc, tout ça, c'est lié. Je pense qu'il faut avoir une approche intégrée de la problématique. Et aujourd'hui, on a les conflits. Donc, si tu vois les origines des conflits, c'est vrai, il y a l'extrémisme, mais aussi il y a la rareté des ressources, surtout les ressources terres, les ressources naturelles, qui pousse les gens donc, à la violence. Et on peut dire que ces changements climatiques aussi poussent vers la violence. Et la violence entraîne la destruction des maisons. Donc voilà autant de facteurs qui montrent la complexité de la situation. Mais aussi, on est habitat aussi longtemps que nous sommes concernés. Nous sommes prêts des autorités locales, des gouvernements nationaux pour développer les politiques urbaines avec une sensibilité au climat, mais aussi des politiques de logement avec une sensibilité au climat qui donnent au moins une vision à ces pays dans la manière dont ils doivent adresser ces questions.
Vous parliez de la question des matériaux. Il y a une autre question aussi sur les enjeux environnementaux. C'est celle de ne pas continuer à étendre et à artificialiser les sols et à densifier pour préserver des espaces naturels.
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est une nécessité parce que aussi, il y a deux jours, j'ai discuté avec un collègue, je suis sénégalais. Et on se disait en 2035, qu'est-ce que sera le territoire sénégalais? Si vous avez vu Dakar, la saturation, ce qui dit qu'effectivement, l'étalement n'est pas la solution. Il faut construire en vertical. Et je pense qu'Oni Habitat aussi est en train de promouvoir cette dimension de verticalité et de densification parce qu'aussi il y a un intérêt social et économique à la densification. Si vous mettez les populations dans une zone dense, ils peuvent se partager les infrastructures et il n'y aura pas l'étalement urbain dont on parle. D'un point de vue social, ça crée la cohésion sociale. Je sais qu'il y a une dimension culturelle à surmonter, mais il y a tout un travail de sensibilisation, mais aussi voir en quelque sorte quelle peut être l'adaptabilité de ces populations vers cette forme de logement, sinon les logements seront vides. Everything I do, I'm killing it. I'm the spice you need seasoning. Cut you off quick, I don't need a reason. Summer's gone on to the next season. Dive in the back and I just move on. Like I don't know you, I'm gone. Now they mad over me, run town. I they do bad gallery, man down. Make you gonna bop on the dance floor. Gonna bop on the dance floor. But this will find make you one more. Gonna bop on the dance floor. Bad energy, stay far gone. Don't stress when I'm in my zone. No time to give to waste, man. Just move your waistline to the baseline. Gonna bop, just gonna bop. Gonna bop, just gonna bop. Gonna bop, just gonna bop. Make you gonna bop on the dance floor. All the boys in my DMA, they just want me to see them eye. Don't reply, so it they bother. Never see this kind of girl before. Gonna bop, just gonna bop. Gonna bop, just gonna bop. Gonna bop, just gonna bop. Make you gonna bop on the dance floor. Gonna bop on the dance floor. Just gonna bop on the dance floor. Body so fine, make it one more. Gonna bop on the dance floor. Gonna bop on the dance floor. Just gonna bop on the dance floor. Body so fine, make it one more. Gonna bop on the dance floor. Body so fine, make it one more. Judy gonna bop on the dance floor. Like a ninja, she bring the danger. Never see this kind girl before, yeah. Bop and bop baby, and bop that. And I bop,
Molly Ganabop sur RFI. Nous nous interrogeons aujourd'hui, quel avenir pour les villes intermédiaires en Afrique? C'est sûr que tous les regards vont se porter sur ces villes intermédiaires dans les années à venir, vu la croissance démographique. En principe aussi, les projets d'urbanisme, les financements pour, on l'espère, ne pas reproduire les erreurs des capitales, des métropoles. Inès Edel Garcia, vous étiez en reportage à Kisumu, troisième ville du Kenya. Ça veut dire qu'il faut repenser l'urbanisme tel qu'on le pratiquer jusque-là?
En quelque sorte, oui. L'ONG Iklé Afrique défend auprès des collectivités locales une approche justement du développement urbain durable. Cette approche, elle repose sur 5 grands principes, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la nature en ville avec les services qu'elle peut rendre à la population.
Oui, la fraîcheur des jardins, par exemple, pour se promener.
Ensuite, l'économie circulaire, la résilience face aux risques et enfin le développement social équitable pour ne laisser évidemment personne de côté.
Oui, la réduction des inégalités sociales. Oui.
C'est ça. L'avantage qu'ont ces villes intermédiaires, c'est que contrairement aux grandes métropoles, elles ont une croissance démographique moins importante, mais surtout, comme vous l'avez dit Emmanuel, elles ont les contre-exemples de certaines métropoles à ne pas reproduire. Et donc, elles ont les moyens de corriger les erreurs passées de ces grandes villes.
En revanche, pour le moment, elles ont quand même beaucoup moins de moyens financiers que les métropoles, les capitales africaines. Du coup, tous ces projets d'adaptation au changement climatique, comment ils vont être financés?
Effectivement, les villes intermédiaires font face à un important déficit d'investissement. Elles ne dégagent que très peu de ressources financières propres. Résultat, elles manquent de services essentiels. Je pense notamment aux écoles, aux centres de santé, les systèmes de transport. Et quand bien même elles en auraient, l'administration locale n'aurait ni les moyens, ni le savoir-faire de gérer ensuite leur fonctionnement. On estime aussi que l'Afrique reçoit seulement 3% des financements internationaux pour le changement climatique. C'est rien. Et en plus de cela, les banques et les bailleurs de fonds sont généralement plus intéressés par les gros projets qui nécessitent des gros investissements plutôt que les microfinancements. On comprend maintenant pourquoi le financement de ces villes intermédiaires était précisément au cœur de ce sommet Africité à Kisumu en mai dernier. Mais une question demeure, comment s'assurer que les villes intermédiaires ne se contentent pas de faire du greenwashing pour capter justement ces financements étrangers? Écoutez à ce sujet Nelson Delamar de l'ONG Iklé Afrique.
Ces projets sont développés par les villes et sont vraiment liés à leurs besoins. Ça ne va pas être des projets qui viennent du secteur privé et où... de banques qui peuvent être plus prônes à faire du greenwashing et à présenter des projets qui au final ne sont pas du tout respectueux de l'environnement et respectueux du climat, etc. Donc il y a beaucoup moins pour les villes ce côté un peu plus capitalistique qui est très lié au greenwashing qu'on peut retrouver dans le secteur privé ou dans les banques. Par contre, c'est vrai que de toute façon, pour pouvoir accéder au financement, il faut pouvoir répondre aux critères de ces financiers qui peuvent être des banques privées et qui peuvent venir du secteur privé en général. Et là, effectivement, il va y avoir beaucoup plus de problèmes de concilier la vision de la ville avec la vision du secteur privé. Mais je pense que c'est moins le cas lorsque ces projets venant des villes vont être présentés à des bailleurs de fonds qui sont beaucoup plus conscients des questions du greenwashing, etc. C'est le cas, par exemple, de bailleurs de fonds comme le Fonds Vert Climat, comme le Fonds d'adaptation, etc., qui sont tout à fait conscients de ces problèmes. Après, lorsque les villes ne passent pas par une planification urbaine, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de risques qui est du greenwashing.
Inès Edel Garcia, aujourd'hui, quelles sont les politiques de développement des bailleurs de fonds qui ciblent plus spécifiquement les villes intermédiaires?
Eh bien, le programme Ville du Fonds de développement urbain et municipal, lancé par la BAD et par d'autres partenaires, ce programme permet aux municipalités de faire un état des lieux pour ensuite trouver de l'argent pour financer du coup ces projets. Dans ce programme, on retrouve des villes comme Bizerte en Tunisie ou encore Dodoma en Tanzanie. Et figurez-vous que la ville de Kisumu, qui est donc, je le rappelle, la troisième ville du Kenya, est d'ailleurs en train d'être intégrée à ce programme.
On dirait que Kisumu Kisumu donc met toutes les chances de son côté pour réussir son pari de transformation de ville intermédiaire.
Oui, Kisumu rêve de devenir une vitrine de la ville intermédiaire africaine, vertueuse par excellence. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Il faut se rappeler que Kisumu représente avant tout la ville des Luo. C'est une ethnie minoritaire qui a longtemps été marginalisée. La région a été maintenue dans une forme de sous-développement par rapport au reste du pays. Et la situation est aujourd'hui en train de changer, on le voit. Kisumu perçoit désormais plus de financement de l'État. Et il y a une vraie volonté de rattrapage et aussi une certaine fierté des habitants qui sont pleins d'ambition pour leur ville. C'est notamment le cas d'Elvis Opio, membre du Community Partnership for Safe Walking and Cycling in Kisumu, une association qui essaie de sensibiliser les habitants de Kisumu, mais aussi le gouvernement local du comté de Kisumu, pour aménager des trottoirs et des pistes cyclables. J'ai donc retrouvé Elvis en plein centre-ville de Kisumu, pas loin de la gare routière et du marché aux poissons. Nous sommes au milieu des petits commerces de vêtements et de nourriture, là où de nouveaux aménagements d'espaces publics viennent d'être réalisés.
Ici, nous avons une piste cyclable, un chemin piéton avec du mobilier urbain, ainsi qu'une voie dédiée aux motos et aux voitures. Si vous regardez bien, là, des deux côtés, on a des blocs aussi pour empêcher les deux roues motorisées d'aller sur la voie réservée aux piétons.
À quoi ressemblait cet endroit avant de procéder à ces aménagements ?
Avant ça, nous avions juste une route, une seule et même route pour tous. Les flux n'étaient pas différenciés comme ils le sont aujourd'hui. En fait, nos routes étaient faites pour les véhicules, pas pour les gens.
C'est difficile de défendre, de promouvoir des mobilités douces, des mobilités durables ici à Kisumu.
Oui, ça a été difficile de faire la promotion des mobilités sécurisées à Kisumu parce que, vous savez, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi vous créez une voie pour les cyclistes. Résultat, vous avez des vendeurs ambulants qui s'installent ici pour vendre leurs affaires. Ça ne leur vient pas à l'esprit qu'un cycliste puisse utiliser cette voie. Encore une fois, la sécurité routière dépend des comportements des usagers. C'est justement ce changement de comportement qu'on essaie d'inculquer aux gens. Et vous savez à quel point c'est difficile de faire accepter le changement. Si vous n'avez jamais eu de voie réservée aux piétons ou aux cyclistes, comment savoir ce qui est important ? Maintenant, les gens se rendent compte de leur utilité parce que désormais, ils en ont.
Quelles sont les prochaines étapes en termes de mobilité durable, justement ?
Nous avons différents projets, notamment un walkathon et une compétition cycliste. Nous voulons organiser un walkathon avec les représentants du comté. L'idée, c'est de proposer une marche depuis le centre-ville de Kisumu jusqu'en banlieue. En voyant le gouverneur marcher, les gens vont se dire que c'est quelque chose de positif. C'est comme ça qu'on peut changer les mentalités, parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est chic d'avoir une voiture, alors que c'est surtout dangereux. Donc, en voyant le gouverneur marcher, les gens vont se dire « Ok, le gouverneur a de l'argent, mais il marche depuis le centre-ville jusqu'à Mamboleo ou Nyalenda. » C'est aussi une manière de rapprocher le gouvernement du comté de la population. Enfin, ce walkathon permet également aux politiques de tester les aménagements qu'ils ont mis en place. Si vous avez aménagé un cheminement trop étroit, maintenant que vous y êtes, vous pouvez enfin vous en rendre compte. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire assis depuis votre bureau. Nous avons aussi une compétition cycliste, je le disais, à laquelle nous allons faire participer les ingénieurs des travaux publics. Et là encore, le gouvernement du comté. Nous invitons les ingénieurs à venir constater si ce qu'ils ont construit est praticable ou non. Ça peut les aider à faire des ajustements en prévision des autres routes qu'ils seront amenés à construire à l'avenir.
Quelle est la distance de ces compétitions ?
On espère avoir un walkathon de 10 km et 50 km pour la compétition cycliste.
Est-ce qu'ici à Kisumu, la jeunesse vous semble impliquée, engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Je dirais qu'ils sont conscients, mais pas à 100%. Dans notre projet, l'une des raisons pour laquelle nous encourageons les gens à adopter le vélo ou la marche à pied, autrement dit les transports non motorisés, c'est parce qu'ils sont sans émissions. C'est bon pour l'environnement car ça n'émet pas de CO2 dans l'atmosphère. Cela signifie qu'on aura des rues plus propres et qu'on réduira le réchauffement climatique et la pollution. Et c'est comme ça qu'on pourra résoudre le problème du dérèglement climatique.
the issue of climate change. As you can see, this park behind us here.
Vous voyez là le parc derrière nous. Autrefois, c'était une zone d'activité économique. Il y avait des commerces, des hôtels, des boutiques. Mais un jour, le gouverneur a dit « Nous devons avoir des arbres dans notre ville. Nous manquons d'arbres pour purifier l'air. Donc, nous devons avoir un parc avec des arbres. » Et c'est ainsi que cet espace a été clôturé, fermé. Et maintenant, vous avez juste des bancs pour se reposer et des arbres qui ont bien poussé.
C'est vrai que c'est très important dans des villes très chaudes comme ça, comme Kisumu, d'avoir des endroits au frais qui permettent de rafraîchir la ville et des endroits agréables, beaux, où l'on a envie de rester et pas simplement de traverser.
Oui, c'est un bon début, mais on doit faire encore plus. Vous avez beau parler de changement climatique à quelqu'un, lui expliquer comment sera le climat dans 30 ans, la plupart des gens continuent de réfléchir à court terme. Ils pensent à ce qu'ils ont aujourd'hui, demain, la semaine prochaine ou dans quelques mois. Les gens ne voient pas forcément l'intérêt d'agir pour quelque chose qui adviendra dans 20 ou 30 ans. Donc, notre mission maintenant, c'est de leur faire comprendre que cet horizon dont on parle n'est pas si loin d'eux, et encore moins de leurs enfants et de leurs petits-enfants.
Quelles sont vos attentes? Comment vous imaginez le futur de Kisumu?
Kisumu va devenir la première ville d'Afrique à avoir un système de transport aussi moderne parce que le gouverneur est très mobilisé sur la blue economy, sur le changement climatique et sur les transports décarbonés. Donc nous avons la conviction que d'ici 5 ans, quand vous ou n'importe qui d'autre viendrez à Kisumu, ce sera l'une des villes les plus en pointe en matière de mobilité douce, bien plus que Nairobi même. Ce sera une ville piétonne, une ville cycliste, et une ville verte.
Non-motorized transport. It will be a walking city, a cycling city, and a green city.
Hope so.
Alors, les villes intermédiaires seront-elles le nouvel Eldorado du développement urbain durable en Afrique? Réponse dans quelques années. Ce reportage a été réalisé avec le concours de CGLU Afrique, Cités et Gouvernements Locaux Unis d'Afrique, à la réalisation Laurie Plisson et David Brocouet. Vous pouvez réécouter notre émission sur RFI.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement en podcast. Merci à vous, Inès et Del Garcia.
Merci, Manuel.
À demain, les voisins et les voisines, les 8 milliards.
Allah il nous a mille, Allah il nous a Allah he do go sendo. Allah he do kambadi go sendo. Yero han yero dam mayo danga. Yero chi haya kesi kada mayo danga. Yara har haya kesi kada mayo danga. Allah he do kambadi go sendo. Ekani kijiri ya emile, I go don't touch with the gun emile, I wewe.
8 milliards de voisins, c'est fini. RFI.